Salut à tous, merci d'être au rendez-vous de ce Jeux CT podcast hebdomadaire. Au programme de ce numéro, le débrief du tournoi de Miami. Pour me prêter main forte dans cet exercice, j'ai le plaisir d'accueillir Théo Van de Weeg, fidèle collaborateur de Philippe Dehaze, qui voyage donc régulièrement avec Great Minen quand Philippe est en Belgique. Salut Théo.
Salut, bonjour à tous.
Et justement, il reviendra un mois aux États-Unis où il a accompagné notre numéro 2 belge. Alors merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. Ensemble, on va revenir sur ce qui a marqué ce tournoi de Miami, deuxième Masters 1000 de la saison. Et une semaine après le sacre de Carlos Alcaraz à Indian Wells, eh bien, c'est Yannick Sinner qui s'est imposé à Miami. Sinner, Alcaraz, ces noms s'inscrivent de plus en plus sur les trophées du circuit ATP. La nouvelle génération est bel et bien au rendez-vous et c'est une aubaine pour tous les amateurs de tennis que nous sommes. Chez les femmes, la victoire finale de Danielle Collins à Miami s'apparente à un véritable conte de fées. On vous le racontera. C'est parti pour un nouvel épisode que vous pouvez retrouver comme tous les autres d'ailleurs sur toutes les plateformes de podcast.
Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts.
Salut Théo.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast, à ce débriefing de l'actualité. Alors, je rappelle que tu es, je ne sais pas comment t'appeler, le co-coach, le bras droit de Philippe Dehaze dans l'accompagnement de Great Minen. Tu la suis donc régulièrement sur le circuit. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tout ça s'est fait ?
Oui, c'est ça. Donc, en fait, il y a un an et demi maintenant, Phil m'a téléphoné, Philippe Dehaze, pour justement un projet avec Great. Donc il m'a proposé de voyager un certain nombre de semaines avec elle par an. Et donc je suis parti un peu à l'aventure parce que je la connaissais de vue, etc., dans les tournois parce que j'avais fait quelques semaines avec Isaline Bonaventure avant. Mm-hmm. Et donc il m'a proposé ça, mais il m'a dit voilà, dans deux semaines vous partez en Australie.
Ah oui, je me souviens.
Et donc en fait je suis arrivé en Australie sans la connaître. Et puis ça s'est vraiment bien passé. On a passé un mois là-bas. J'ai regardé beaucoup. On a eu l'occasion de passer de nombreux entraînements et quelques matchs qui ont fait que j'ai appris à la connaître, elle aussi, etc. Et depuis, ça fait maintenant un an et demi qu'on voyage ensemble. On regarde avec Phil le programme, avec elle aussi. Et à trois, on se coordonne pour qu'on fasse plus ou moins moitié-moitié. Donc voilà, ça se passe vraiment bien. J'ai la chance aussi de le faire avec Philippe.
Tu le connaissais ?
J'avais commencé il y a quelques années avec lui en tant que sparring pour ses différentes joueuses.
Ah oui.
Maintenant, j'ai passé un petit step et c'est vraiment super de pouvoir être accompagné par Phil et d'avoir ses conseils au quotidien qui m'aident beaucoup parce qu'avec son expérience sur le circuit, c'est quand même une des références sur le circuit WTA.
Et c'est ce que tu avais envie de faire, du coaching, parce que tu es joueur, donc tu as été sparring, tu l'expliquais. C'est la voie que tu avais envie de prendre ?
Honnêtement, il y a quelques années, j'y pensais pas vraiment.
Parce que tu es jeune ?
Je jouais, ouais,
t'as quel âge ?
J'ai 24 ans.
Ok.
Ouais, je jouais pour moi, j'étais à la fédération, puis j'ai essayé un peu le circuit. Et à ce moment-là, j'y pensais pas vraiment. Et puis Phil m'avait contacté pour faire sparring avec Kazatkina à ce moment-là. J'avais accepté ça, c'était une super opportunité pour moi, avec une fille qui était top 10, etc. Et en fait, j'ai vraiment pris goût à ça, au coaching, etc., en voyant Phil sur le terrain avec elle, et puis au fur et à mesure des années avec Yuvan, Puig, etc. Mm-hmm. Et c'est vraiment comme ça que j'ai pris goût. Et puis ouais, au fur et à mesure des années, je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait, on garde une certaine adrénaline aussi quand on est dans les tournois. Et puis suivre une personne bien précise avec différents objectifs de classement, mais aussi d'objectifs sur le terrain, c'est quelque chose qui me motive aussi. Je peux dire que c'est quand même Phil qui m'a donné vraiment le goût à ça. Ouais.
C'est ton mentor un peu.
Un peu, oui. Je sais que lui avait un peu la même chose avec Julien Oferlin.
Ouais.
Je me compare souvent à cette relation qu'il a avec lui. Parce que on s'appelle presque tous les jours. C'est vraiment quelqu'un qui m'aide beaucoup, qui est vraiment très présent. Et donc, je le prends vraiment comme un mentor un petit peu.
Et dans le tennis, t'as un quel niveau en Belgique ?
En Belgique, j'étais Serie A. Je pense que j'étais 25-30e belge. mais j'ai pas non plus joué énormément, enfin des saisons complètes en Belgique.
Ça fait quoi de faire sparring partner de Daria Kazatkina ? Ça doit envoyer du lourd quand même en face.
Ouais, en plus j'ai vraiment commencé avec elle. c'était toujours très intéressant en voyant ces filles-là, comment elles travaillent au quotidien, pas nécessairement que sur le terrain, dans la salle, aussi leur hygiène de vie, etc. Donc c'était vraiment très intéressant. J'avais 18-19 ans, de voir comment une fille du top 10, entre guillemets, gérait sa vie, voir tous les sacrifices qu'il faut faire pour arriver à ce niveau-là et surtout maintenir à ce niveau-là, parce que ça fait quand même quelques années qu'elle est au top 10 ou au port du top 10. Mm-hmm. Et je pense que c'est ça le plus dur, de pouvoir y rester pendant 5, 6, 7 ans. Et du coup, c'est très intéressant de pouvoir analyser tout ça et de prendre de l'expérience au fur et à mesure des années avec elle, avec Monica Puig qui a été championne olympique, avec Kaya Juvan qui est arrivée top 80 très très jeune aussi.
Raducanu, tu as eu l'occasion de taper un peu avec elle ?
Non, parce que c'était pendant le Covid les règles étaient vraiment très strictes. Mm-hmm. Je pense que Phil a dû aller en Angleterre, mais vraiment de manière... même lui, avec le Covid, c'était vraiment pas évident.
Mm-hmm. Et tu me confirmes qu'un homme classé comme toi, sur un match par exemple, je suppose que tu as dû en faire des sets avec ces joueuses-là, tu les bats facile ?
Facile, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, il y a quand même une certaine différence avec la puissance, etc.
Enfin, sachant que tu n'es pas classé mondialement, c'est quand même incroyable. Quoi.
C'est quand même incroyable de se dire, avec Daria, qui était quand même top 10, de se dire qu'en fait, il y avait quasi pas de différence. Et même moi, ça m'avait vraiment surpris à ce moment-là. On m'avait déjà dit quelques fois que, Serie A, moins 15-4, ça jouait avec Justine Hénin quand elle était, quand elle était à son top. Et je ne m'en rendais vraiment pas compte. Mais chacun son style. Et voilà, Daria a un style qui embête beaucoup de filles, qui est vraiment basé sur son physique, sur son mental, etc. Maintenant, il y a des filles beaucoup plus puissantes. Mm-hmm. Je pense à Sabalenka, je pense à des joueuses de ce type-là, Rybakina, qui, je pense, sur un match, m'embêteraient beaucoup plus que des filles comme Daria, qui aiment vraiment bien contrer... Mais ça reste très intéressant de pouvoir faire des mois d'entraînement avec des filles comme ça.
Et justement, tu le disais Théo, tu es rentré de la tournée aux États-Unis où tu étais avec Grete. Alors d'abord, il y a eu Indian Wells où elle a malheureusement perdu au premier tour contre Siniakova. Elle a ensuite pris part au tournoi de Charleston, un WTA 250 où elle a fait une belle demi-finale. On en avait parlé déjà avec Philippe. Et puis, vous avez pris la direction de Miami où Grete a perdu au deuxième tour des qualifs contre Claire Liu. Mais où elle a été repêchée comme lucky loser. Alors ça devait quand même être assez incroyable comme histoire, comme aventure. Explique-nous un peu comment tout ça s'est passé. C'était un peu j'ai gagné au loto, quoi.
Ouais, c'est ça. on sait qu'il y a un règlement avec les meilleurs classés qui sont directement retirés au sort s'il y a des lucky losers.
C'est quoi le règlement exactement ? Explique-nous. Donc, quand tu participes au qualif, les meilleurs classés sont mis dans un pot et c'est elles qui ont la chance d'être pêchées.
Donc, les meilleurs classés qui perdent au dernier tour des qualifs, s'il y a des filles qui se sont déjà retirées du tournoi ou qui vont se retirer dans les 2-3 jours de premier tour, sont tirées au sort. En fonction du nombre de lucky losers, il y a un certain nombre de filles qui sont tirées. Là, en l'occurrence, avant le début du tableau, on savait déjà qu'il y avait deux lucky losers. Donc, il y avait trois filles qui étaient tirées au sort et Grete n'était pas dedans.
Deux lucky losers, mais trois tirées au sort.
Ouais. Donc, ils en prennent toujours une en plus.
OK.
Et dedans, dans les trois, ils en tirent deux. Et les deux qui sont tirés rentrent directement dans le tableau. Grete n'était pas dedans. Donc, le premier jour, c'était un peu pas de chance.
Et la troisième, pendant ce temps-là, elle attend alors ?
Elle attend. Elle est numéro 1 sur la liste. Et donc, comme Grete était numéro 1 sur la liste, on devait attendre. Parce que, il y en a une qui peut être malade pendant la nuit, qui décide de ne pas jouer. Il y en a une qui peut se blesser à l'entraînement la veille de son premier tour. Et donc, il faut toujours attendre, surtout quand tu es 1, voire 2 dans les alternés pour rentrer. Et donc, en fait, il y a une petite histoire avec Sabalenka, où son ex-mari a été retrouvé mort à Miami. C'était vraiment malheureux et on pensait tous que Sabalenka n'allait pas jouer le tournoi. Donc Grete, malheureusement, dans ce cas-là, parce que c'est quand même une histoire qui était vraiment très triste, pouvait rentrer à la place de Sabalenka, sauf qu'elle a décidé de jouer.
Oui.
Mais Krejcikova s'est retirée. Et comme elle était justement tête de série, parce qu'elle est dans le top 20, elle était bye au premier tour et donc Grete la remplaçait directement au deuxième tour. Mais après, c'est une chance à prendre. Elle avait un match pas facile.
Oui, contre Tsurenko.
Contre Tsurenko, qui est quand même dans le top 50 depuis quelques années, qui a été mieux classé aussi. Et voilà, quand on a une chance, une opportunité comme ça, bah, il faut toujours pouvoir la saisir.
Donc, elle a gagné contre Tsurenko. Et puis, au troisième tour, elle a fait mieux que se défendre contre Yulia Putintseva, qui est une ancienne joueuse du top 30 et qui a déjà atteint 6 quarts de finale en WTA 1000. Les tournois donc les plus prestigieux après les grands chelems, hein, je le rappelle. Et Gret a perdu 2-6, 6-2, 6-4. Des regrets sur cette rencontre ?
Non, des regrets, non, parce que je pense que Gret a fait le match qu'elle devait. Elle a vraiment fait un bon match. C'est dommage parce que ouais, c'est 6-4 au troisième, ça se joue vraiment à rien. À ce niveau-là de la compétition, bah, c'est quand même très frustrant parce que tu te rends compte que tu peux faire quatrième tour dans un Master 1000. Mais voilà, il faut retenir le positif de cette tournée parce qu'à Indian Wells, Miami, bah, c'est toujours des tournées très difficiles où tout le monde est là, toutes les meilleures sont là.
C'est des surfaces très différentes entre Indian Wells et Miami. On dit quand même qu'il y a pas mal de différences au niveau des conditions
ouais,
de
les
jeu.
Les conditions sont quand même assez différentes. À Indian Wells, c'est dans le désert. Les balles sont un peu différentes aussi.
Ça vole un peu.
Ça vole un peu, donc c'est jamais facile de s'adapter non plus. À Indian Wells, on est quand même arrivé tôt à l'avance. Mais on voyait des mecs comme Alcaraz qui était là 10 jours avant le tournoi. C'est que les conditions sont quand même un peu différentes qu'ailleurs.
Et Miami est un peu plus lourd, en plus il a plu pas
ouais,
mal.
Ouais, Miami c'est un peu différent et c'est un peu plus chaud aussi. Donc ouais, c'est quand même assez différent et puis tout le monde est là. Donc voilà, il y a même les meilleurs, parfois ils reviennent d'Indian Wells et Miami avec 0 victoire ou 1 victoire, 2 victoires. Parce que tu peux jouer des joueurs et des joueuses qui sont vraiment dans le top. Mm-hmm. Dès le premier tour, dès le deuxième tour, il n'y a pas de tour facile.
Mm-hmm.
Pour
comme
entrer dans le tableau,
chelem,
il faut être dans les 85 premiers mm-hmm. mondiaux. Donc ouais, c'est assez compliqué. Mais le tournoi entre les deux nous a fait du bien aussi.
À Charleston,
c'était pas du tout sûr qu'on le joue. Ça dépendait aussi des résultats à Indian Wells. Et elle fait demi dans un tournoi qui est très relevé parce qu'il y a énormément de joueuses qui ont perdu au premier tour ou au deuxième à Indian Wells qui sont venues à Charleston aussi. Mm-hmm. Des filles qu'on ne s'attend pas à voir dans des tournois de cette catégorie-là.
En WTA 125.
Et elle a réussi à faire demi.
Ouais.
Donc c'était vraiment pas mal.
Et elle perd contre la vainqueur du tournoi.
Elle perd contre la vainqueur du tournoi en ayant balle de 7 dans le premier. Ça reste quand même une tournée très positive avec pas mal de points engrangés. Et de la confiance surtout.
Et c'est ça le plus important.
La confiance, c'était les derniers tournois sur dur mm-hmm. avant de passer sur la terre.
Et cette semaine, elle est déjà sur terre battue. Elle est en Espagne avec Philippe à la Bisbal d'Empordà. Tu excuseras mon accent espagnol. Et elle est tête de série numéro 1 dans ce WTA 125, je pense.
Ouais.
Elle joue peut-être en ce moment
elle
même.
Elle joue en ce moment, ouais.
Kristina Mladenovic, tu sais combien c'est ? T'as déjà regardé ?
J'ai vu qu'elle avait perdu le premier set.
Okay.
Depuis, j'ai pas encore regardé, mais c'est jamais facile la transition. Hein. Je veux dire,
mais oui, elle a pas eu beaucoup de temps.
Non,
en plus
pas beaucoup de repos. Rentrer mardi de Miami,
ouais.
Un ou deux jours de récup parce qu'avec le voyage, etc. Et puis directement 2 entraînements ou 3 entraînements sur terre, et puis c'est reparti.
C'est pas beaucoup ça. Hein.
Non, c'est pas beaucoup. Maintenant, on a décidé d'adapter un peu le programme. Avec Phil, on s'est posé la question. Avec elle aussi, on a regardé et on trouvait que c'était intéressant de continuer à faire un mixte entre les 125, les 250 et les tout gros tournois. Comme Madrid, Rome qui vont arriver.
Pour en manger aussi un peu de victoire.
Un peu de victoire, un peu de confiance, parce que voilà, dans ces gros tournois, on ne sait jamais contre qui on peut jouer au premier tour, ni au deuxième. Et donc, voilà, c'est pour continuer à rester dans cette énergie, dans ce rythme de faire des matchs. Surtout là, pour commencer la saison terre battue, je pense que c'est intéressant de commencer par des tournois entre guillemets un peu plus bas dans la hiérarchie. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre un trait sur la Fed Cup, en tout cas au mois d'avril.
Ouais, j'ai eu Wim justement cette semaine, j'ai posté un podcast spécial pour avoir un petit peu son état d'esprit à 15 jours de cette rencontre, mais il comprenait le cas de Janina et de Gret qui avaient fait un difficile début de saison. Ouais. Comment elle était Gret, toi qui as vécu avec elle pendant tout ce moment, elle devait être pas mal torturée par cette décision.
Ouais, parce que pour elle, c'est vraiment très important de représenter son pays, de jouer pour l'équipe nationale quand on en a l'occasion. En fait, il fallait rester aux États-Unis parce que c'était à Orlando, on était à Miami. Donc, il fallait encore enchaîner un tournoi en plus. Puis la Fed Cup, mais la Fed Cup, c'est toujours une semaine de préparation et puis le week-end de Fed Cup. Et donc, tu ne peux pas jouer non plus la semaine d'après parce que tu finis le dimanche soir, tu ne peux pas jouer le lundi.
Donc, elle perdait pratiquement 3 semaines.
Elle perdait 3 semaines, oui. Et c'était aussi passer de terre à dur pour revenir sur terre. c'était pas vraiment les bonnes conditions en tout cas pour la jouer cette fois-ci.
Oui.
Et puis voilà, c'est quand même c'était pas une décision facile, mais elle a toujours été là. Donc voilà, je pense que ne pas y aller une fois, c'est pas grave, surtout dans ces conditions-là, elle a une bonne raison de ne pas y aller, même si voilà, c'est toujours frustrant de pas pouvoir représenter son pays, elle qui adore ça.
Oui.
Yanina aussi. Je pense que c'est une bonne opportunité pour les jeunes aussi. Et puis je suis sûr que Grete et Yanina, dès le prochain match, elles seront présentes et elles défendront le pays comme elles l'ont fait dans les années précédentes.
Oui, et puis elles sont toujours dans cet objectif de jouer les Jeux Olympiques aussi. Elles en font un gros objectif de saison.
Oui, exactement. Si on pense au classement personnel, et ils vont le prendre dans quelques semaines aussi, ça va aller vite. Donc je pense que c'était important de ne pas perdre 3 semaines maintenant en vue de cet objectif-là. Toutes les deux, elles ont joué l'année passée, donc elles sont dans les critères pour pouvoir disputer les Jeux Olympiques. Maintenant, voilà, il faut essayer de garder les classements et de pouvoir être prise, parce que voilà, c'est quand même les Jeux Olympiques, c'est quand même un événement incroyable, et ça serait vraiment top si elles pouvaient le jouer.
Alors on va revenir quand même un peu à nos moutons, hein, Théo, parce qu'il faut quand même qu'on débriefe le tournoi de Miami. Il y a eu cette magnifique victoire de Danielle Collins. Je vous replante un peu le décor. Donc en janvier, l'Américaine avait annoncé qu'elle avait l'intention de ranger sa raquette à la fin de la saison 2024 en raison de la maladie dont elle souffre depuis 2019. Une maladie chronique inflammatoire articulaire, la polyarthrite rhumatoïde. Danielle Collins souffre également d'une endométriose. 3 mois après cette annonce, elle s'est offert samedi le plus beau titre de sa carrière, le WTA 1000 de Miami, devant son public qui plus est. Et en finale, l'Américaine n'a pas sorti n'importe qui. Elle a battu la finaliste de l'an dernier, Elena Rybakina, 7-5, 6-3. Rybakina, numéro 4 mondial, et qui disputait déjà sa 4e finale de l'année. Donc vraiment pas n'importe qui en face d'elle. Quel conte de fées, hein, cette histoire-là.
C'est vraiment un conte de fées pour elle, parce que je pense qu'elle vient de Floride en plus. Donc, donc c'était vraiment chez elle. Mais comme souvent, quand tu dis que tu vas arrêter, la pression diminue en fait. Tu sais que c'est ta dernière année,
puis elle a
tu joues un peu
prouver.
Plus relâché, tu n'as plus rien à prouver. Elle l'a montré dans ce tournoi, mais c'est vraiment magnifique pour elle de pouvoir gagner un titre comme ça la dernière année où elle est sur le circuit. Et surtout ouais, de battre des filles comme Rybakina qui sont quand même très très constantes, qui a joué énormément de finales, qui a énormément d'expérience dans ces tournois-là. Bah, ça montre vraiment qu'elle a eu un très bon niveau pendant toute la quinzaine et qu'elle mérite sa victoire finale.
Elle n'est même pas tête de série en plus. Elle n'était même pas tête de série dans ce tournoi, l'Américaine. En fait, elle a profité de l'élimination de Swiatek, qui était une grosse surprise, pour se faire une place dans le haut du tableau, relativement dégagée. Mais bon, elle a quand même sorti Caroline Garcia en quart et Alexandrova en demi, tombeuse de la numéro 1 mondiale, Swiatek. Elle n'a lâché qu'un petit set sur les 10 jours de tournoi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le jeu de Danielle Collins, que on ne connaît pas très très bien finalement?
Mais en battant Garcia et Alexandrova, qui sont quand même des joueuses assez puissantes et qui jouent vraiment vers l'avant, je pense qu'elle a vraiment, fait preuve d'une certaine solidité pendant tout le tournoi, encore en finale, parce que Rybakina, c'est quand même une joueuse qui est très puissante, qui joue très vite. Donc pouvoir rivaliser avec des filles comme ça, ça montre son jeu de contreuse, sa vitesse de déplacement sur le terrain. Elle n'a pas vraiment de coups faibles.
Oui.
Elle s'appuie vraiment sur la vitesse de la balle de l'adversaire.
Elle a sauvé près de 7 balles de break.
Elle a été là tout le tournoi.
Et il faut préciser qu'en face d'elle, Rybakina menait dans les débats. Elle avait remporté les 3 dernières de ses 4 confrontations avec l'Américaine, bien qu'elles se soient toutes déroulées en 3-7. Donc ça a toujours été des matchs très serrés. Mais avant d'aborder cette finale, Rybakina avait laissé beaucoup d'énergie sur le court, dans une partie de tableau plus relevée que celle de Collins. Rybakina avait d'ailleurs joué 3 heures de plus que son adversaire au moment d'aborder la finale. Des matchs difficiles, notamment face à Sakkari en quart et à Azarenka en demi. On connaît les qualités de Rybakina, toujours dans les bons coups, finaliste à Abu Dhabi et à Doha cette saison, vainqueur à Brisbane en janvier et surtout l'année passée finaliste à Wimbledon. Elle était un peu plus émoussée, tu penses, au vu de son parcours en abordant ce match?
Ouais, je pense que quand on regarde la chaleur qui fait, le fait de rester plus longtemps sur le terrain, d'enchaîner les matchs longs, c'est sûr que ça laisse des traces. Et peut-être que la différence, elle se fait là aussi, mais c'est même sûr.
Puis elle a 30 ans.
Elle est plus non plus. Il y a des joueuses qui sont plus beaucoup plus jeunes aussi. Puis Sakkari, Azarenka, c'est des filles qui jouent très très bien, qui mettent beaucoup d'énergie. c'est sûr que le fait de jouer 3 heures de moins pour Collins l'a sûrement aidé.
Et il faut préciser aussi que Rybakina n'avait pas disputé Indian Wells parce qu'elle souffrait d'un problème gastrique, et donc elle avait dû abandonner au dernier moment. Donc peut-être aussi qu'elle n'était peut-être pas préparée suffisamment.
Et je sais qu'à Doha ou à Dubaï, elle n'a pas joué.
Non, c'est juste.
Donc je pense qu'il y avait aussi un petit problème physique à ce moment-là.
Ouais.
Donc,
elle a moins de matchs dans les jambes.
Moins de matchs dans les jambes aussi, moins de rythme.
Ouais. Et puis moi, ça me fait plaisir que Danielle Collins soulève ce trophée devant son public.
Ouais.
Son 3e titre seulement, le plus prestigieux de sa carrière, car elle n'avait encore jamais remporté un WT à 1000. Elle est aussi venue à bout d'une joueuse du top 5 pour la 5e fois de sa carrière seulement. Performance qui n'était plus arrivée depuis sa victoire sur Paola Badoza à San Diego. C'était en octobre 2022, quand l'Espagnole était numéro 2 mondial. Et Danielle Collins, je rappelle qu'elle n'en est pas à son premier coup d'éclat. Elle était finaliste de l'Open d'Australie en 2022. Elle avait quand même sorti Gassuentec en demi-finale à ce moment-là, avant de s'incliner, est-ce que tu te souviens contre qui ? En finale de l'Open d'Australie 2022. Attention, c'est l'heure du quiz.
C'est pas Sabalenka ?
Non.
Parce qu'elle a gagné 2023-2024.
Ah, je suis contente de t'avoir collé, parce que Phil m'a dit que t'étais incollable. Elle est une merveilleuse joueuse.
Qui a arrêté maintenant ?
Bon, je t'en dis trop là.
Barty ?
Ouais.
Voilà.
C'était contre Barty.
Je me souviens bien.
Effectivement. Et cette année-là, justement, Danielle Collins était devenue numéro 7 mondial. Alors quand j'ai vu ça, je ne me rappelais plus qu'elle avait été aussi bien classée, Collins.
Elle a les qualités, en tout cas, pour l'a encore montré ici à Miami. Mais c'est une très bonne joueuse, ouais. Je ne savais pas non plus qu'elle avait été 7, mais je me rappelais qu'elle avait été très proche du top 10. Mais oui, c'est une très bonne joueuse, elle n'est pas là par hasard. Et on ne gagne pas des tournois comme ça si on n'est pas très complète et qu'on a une super mentalité, qu'on est là physiquement sur le terrain. Et je pense qu'elle l'a vraiment démontré, quoi.
Et elle devient la première américaine à remporter l'Open de Miami depuis Sloane Stephens en 2018. Et en tant que 53e joueuse mondiale, elle est aussi la joueuse la moins bien classée de l'histoire du tournoi à remporter ce WTA 1000. Et puis ce lundi, eh bien, elle fait un bond de 31 places au classement puisqu'elle se classe à la 22e place mondiale. Donc vraiment très belle performance pour terminer sa carrière. Et tant qu'on parle d'avancée au classement, l'autre grosse progression de la semaine est signée Naomi Osaka. Après avoir été éliminée par Caroline Garcia au 3e tour à Miami, la japonaise fait un bond ce lundi de 37 places pour revenir à la 191e place mondiale. Alors oui, évidemment, elle revient de congé de maternité, donc ça prend un peu plus de temps, mais bon, je pense que ça va aller vite. Alors pour être complet, Théo, je mentionnerai aussi que côté belge, Elise Mertens a été sortie au 2e tour à Miami par Taylor Townsend sur un double 6-2. Je ne sais pas si tu as vu son match, tu es allé voir ?
J'ai pas vu son match, j'ai regardé un peu à la télé. Mais ouais, c'est jamais facile de jouer une américaine à domicile, surtout elle, parce qu'elle peut vraiment très très bien jouer. Elle a des frappes quand même incroyables.
C'est un peu tout ou rien, Townsend.
C'est un peu tout ou rien, et je pense que ça a été tout contre Elise. Et ouais, c'est après Elise aussi, de nouveau, elle a joué le double à Indian Wells. Elle a eu très peu de récupération. Je pense qu'elle a fini son tournoi le dimanche et qu'elle jouait déjà le mercredi ou le mardi à Miami. Mais voilà, quand une joueuse chez elle qui se sent bien comme Townsend, c'est pas toujours facile non plus.
Et parmi les faits marquants de ce tournoi de Miami, j'ai épinglé aussi le très joli parcours d'Alexandrova. C'est la deuxième fois qu'elle atteignait une demi-finale dans un WTA 1000. Cette joueuse russe de 29 ans qui a signé deux magnifiques victoires en 8e et en quart sur des joueuses du top 5, donc Iga Swiatek et Jessica Pegula. Alexandrova atteint d'ailleurs un nouveau sommet en carrière puisqu'elle est 15e ce lundi. C'est son meilleur classement. Et il y a autre chose qui t'a marqué dans ce tableau féminin ?
Ce qui m'a étonné vraiment, c'est déjà le fait que Sabalenka joue.
Oui.
Ça a étonné plus d'un. On se regardait un peu tous dans le club, là, parce que ça, c'était vraiment très surprenant. Maintenant,
Oui, parce que son ex-petite amie s'est suicidée, je pense, le dimanche et le mardi. Elle était sur les cours. On l'a vu s'entraîner le lendemain, d'ailleurs.
Ouais, le lendemain, elle arrivait là... la tête baissée, etc. Mais je veux dire, c'était quand même une décision étonnante qu'on n'a pas forcément tous compris. Maintenant, voilà, chacun réagit différemment. Et je pense qu'elle a déjà dû endurer des choses assez dures dans sa vie avec le décès de son papa.
Ouais.
Mais voilà, elle a décidé de jouer. Je ne peux pas vraiment dire que son résultat était décevant, même si déjà à Dubaï, elle a fait une... Depuis son titre en Australie...
Ouais.
C'est pas la même Sabalenka. Je pense que c'est toujours dur de bien jouer après avoir gagné un titre de Grand Chelem. Sabalenka, Dubaï, c'était deuxième ou troisième tour. Ici, de nouveau, maintenant, il y avait des autres circonstances. Mm-hmm. Mais je trouvais que depuis l'Australie, elle était un peu moins bien. Et,
pourtant, quand elle a confirmé en Australie, puisqu'elle a...
Elle a gagné l'année d'avant.
Elle a déjà gagné l'année d'avant. On s'est dit, OK, maintenant, il ne peut plus rien lui arriver.
C'est justement... pour ça que je dis ça, parce que je pensais qu'elle allait vraiment être avec Swiatek tout en haut et qu'elles allaient vraiment se disputer les... parce que quand Sabalenka est bien, c'est quasi injouable. Je veux dire, elle a une qualité de frappe qui est... et une vitesse de balle qui est quand même rare pour une fille. Et ouais, je pensais aussi qu'elle allait Dubaï, Doha,
tous se les envoyer.
Ouais. Et non, je pense que il faut voir dans le futur. Maintenant, comme je l'ai dit, il va falloir voir comment elle digère ce qui s'est passé aussi, parce que c'est quand même ça reste quand même bien plus important qu'un match de tennis. Mais je trouve que déjà à Dubaï, ça m'avait un peu déçu, parce que j'aime vraiment bien cette joueuse. Et je trouve que qu'elle a vraiment une qualité de frappe qui est incroyable. Et je pensais qu'après son titre en Australie, elle était vraiment partie. Et là, ça fait quelques tournois qu'elle a... Ouais.
Plus
mais
de
bon,
mal.
Voilà, à voir, à voir.
Ouais. Elle a quand même battu sa copine Paola Badoza au premier tour au terme d'un très beau match. Et puis, elle a été éliminée par Kalinina en 3-7. Elle a été dispensée de conférences de presse. Donc, évidemment, on ne sait pas dans quel état d'esprit elle se trouve. Mais on espère qu'elle va revenir à son meilleur niveau très rapidement. Et puis, pour terminer sur les femmes, j'avais envie quand même de parler de Azarenka, qui était une nouvelle fois au rendez-vous des demi-finales. C'est la cinquième fois de sa carrière qu'elle est en demi. La première fois depuis 2018, un tournoi WTA 1000 qui lui sourit, même si elle a été éliminée cette année par Rybakina, mais après un match en 3-7, 6-4, 0-6, 7-6, une grosse bataille. C'est la 15e fois que Azarenka participait à ce tournoi de Miami. Elle l'avait déjà remporté en 2009, 2011 et 2016. Au total, elle a remporté 43 matchs dans sa carrière sur le site de Miami. Azarenka, donc, c'est quand même pas mal. Est-ce que tu sais, autre quiz, est-ce que tu sais combien de titres WTA 1000 elle a déjà gagné, Victoria Azarenka? T'as une idée?
Entre 10 et 15?
Allez, je te l'accorde. Elle a remporté 10 titres. WTA 1000. Ouais. Elle aussi, elle dure, Azarenka.
Mais bon. Ouais, c'est quand même, franchement, respect à elle, à Osaka. Après avoir été maman, de revenir comme ça et de jouer à un niveau pareil, c'est quand même hallucinant. Elles reviennent de loin, en plus, c'est jamais facile quand tu reçois des wildcards parce que tu as été une énorme star dans le tennis. Mais je veux dire, il faut encore gagner les matchs derrière. Quoi. Ouais. Et quand tu reviens comme ça, après une grossesse, après. Ouais, c'est vraiment épatant. Et franchement, quand je vois comment à quel niveau elle joue, toutes les deux, hein, parce que Naomi aussi, franchement, respect à elle, parce que je pense que dans quelques mois, il va falloir vraiment les prendre en jeu pour des titres dans des très gros tournois.
Azarenka, ça fait un petit temps déjà qu'elle essaye. Ouais. C'est vrai que ça fait un petit temps qu'elle a plus de gros titres.
Ouais.
Est-ce qu'elle a les moyens de...
Je pense que...
Quand tu vois
que
Collins gagne, tu te dis oui.
Je pense qu'Azarenka, elle pourrait encore gagner un ou deux très beaux titres. Et je pense que Saka, elle va vraiment faire mal encore peut-être après la terre battue, parce que voilà, elle n'a jamais vraiment aimé la terre battue. Mais je pense que quand on va repasser sur le dur aux États-Unis là, pendant les juillet août, je pense que là, elle va vraiment être forte, parce que ça lui laisse encore quelques mois de préparation. Et physiquement, pour moi, elle est encore mieux que à la fin de la première période où elle jouait.
C'est ce que Wim m'expliquait. Il me disait.
Je l'ai vraiment trouvé vraiment affûté, vraiment fit.
Il me disait qu'elle était mieux qu'en 2022.
Ouais, pour moi, il me semble aussi. Et puis, elle a aussi un très bon entraîneur. Hein. Je pense que il connaît vraiment bien le milieu. Il est très, très professionnel. Il connaît aussi énormément les autres joueuses.
Oui.
Il fait beaucoup avec les statistiques, etc. Et je pense que ça aide Naomi aussi. Enfin, voilà, il a gagné énormément de gros titres avec ses joueuses. Et c'est pas pour rien. Donc, si elle a fait appel à lui dès qu'elle a recommencé, il y a une très bonne raison. Et je pense qu'à deux, ils vont faire un très bon boulot jusqu'à la fin de l'année. Et je sais pas combien de temps elle va encore jouer. Mais je pense qu'elle va vraiment regagner des tournois aussi.
Elle a été numéro 1 mondial. Est-ce qu'elle peut y retourner?
Je pense. En tout cas, tennistiquement, elle a les qualités. Maintenant, Swiatek, elle est très constante. Elle a énormément de points d'avance sur tout le monde, je pense. Donc il va falloir la
cravacher.
Rattraper, la cravacher, ouais. Mais pourquoi pas? Je pense que Elle a été numéro un mondial, elle sait gérer les pressions, elle sait jouer des finales de Grand Chelem, elle sait. Et quand tu as fait tout ça, ben c'est, y a plus rien de nouveau pour toi, entre guillemets. Et donc, tu as beaucoup plus facile à gérer la pression que pour des filles. Ben voilà, Swiatek, c'est la même chose, elle a énormément gagné aussi. Mais je veux dire.
Oui, puis mentalement, je pense qu'elle a aussi certainement beaucoup avancé avec la naissance de sa fille.
Exactement.
Parce que c'était là où le bas blessait un petit peu. On se souvient des conférences de presse où elle n'a pas voulu venir, où elle était. Là, elle a fait ce burn-out.
Ouais, et puis tu relativises beaucoup plus les choses aussi quand t'es maman, quand t'as d'autres choses à côté que le tennis. Ouais, parce que là où elle avait dur, c'était parce que c'était devenu une énorme star très très jeune. Mm. Parfois, c'est difficile à gérer. Et je pense que ça peut l'aider aussi d'être maman dans sa carrière tennistique.
Bon, il nous reste quelques minutes, Théo, parce que tu dois aller donner cours pour parler des hommes. Yannick Sinner continue son incroyable saison 2024. Hein, l'Italien s'est défait de Grigor Dimitrov en finale à Miami, 6-3, 6-1, dans un match où il n'y a jamais vraiment eu de suspense. Tu as eu l'occasion de regarder un peu la finale ?
J'ai regardé un peu la finale, ouais, mais je pense que ça soit avec Sinner ou Alcaraz, je pense qu'on a vraiment... On a attendu longtemps avant d'avoir des jeunes qui arrivent au pouvoir. Mais je pense que les deux-là, ils vont faire une carrière incroyable parce que les qualités athlétiques qu'ils ont et puis leur niveau tennistique. Et leur, c'est surtout... ils sont là toutes les semaines, en fait. Ce n'est pas un coup d'éclat et puis ils disparaissent pendant 3 mois et puis ils reviennent. Comme il y en a quelques-uns, bon, ils étaient incroyables. Hein, je veux dire, des mecs comme Chapovalov, Aliassine, etc. Ils sont arrivés jeunes dans le top 10. Mais ils n'ont jamais vraiment passé ce cap à gagner des gros tournois, à gagner des grands chelems.
Attention qu'Alcaraz a eu un petit coup de moins bien. Ouais. Hein. Après sa victoire à Wimbledon, il l'a dit, hein, je ne m'amusais plus autant sur le court qu'avant, j'avais plus le sourire, mes parents me demandaient s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec moi. Et il l'a dit qu'il avait pris moins de plaisir. Maintenant, il semble être revenu au top. Et c'est le seul d'ailleurs qui a battu Yannick Sinner cette année, puisque Yannick Sinner, ses chiffres sont complètement fous. En 2024, c'est 22 victoires pour une défaite, 7 petits sets concédés. C'est 3 titres, dont un premier Grand Chelem, un deuxième Masters 1000 et cerise sur le gâteau, la place de numéro 2 mondial qu'il rafle à Alcaraz, sorti en demi-finale par Grigor Dimitrov. Premier joueur italien à être aussi bien classé au classement mondial. Sinner, c'est vraiment le joueur le plus en forme du moment et le meilleur joueur du monde pour l'instant.
Ouais, je pense que là où il a vraiment montré que c'était un des meilleurs, si pas le meilleur pour le moment, c'est qu'après gagner un grand chelem, il y en a toujours qui ont une période un peu plus difficile.
Ouais.
Il est arrivé, il a joué Rotterdam, il a gagné. Et depuis, il a perdu un match, je pense.
Oui, contre Alcaraz en demi à Indian Wells.
Donc ça montre vraiment les qualités, même mentalement, qu'il a déjà à son âge. C'est complètement exceptionnel. Maintenant, les Italiens, ils sont là. Hein, par rapport à l'Australie, aux États-Unis, etc. Ils ont quand même énormément de joueurs dans le top 100, même dans le top 30, dans le top 40. Et quand on voit les résultats de Sinner, là, c'est complètement c'est hallucinant. Très jeune, il est très calme sur le terrain, c'est ça qui m'impressionne le plus.
Ouais,
et puis tactiquement, je trouve qu'il est très juste. Enfin, on disait avec Medvedev qu'il s'était rencontré plusieurs fois, que d'abord c'est Medvedev qui avait gagné.
Ouais.
Et depuis, il n'arrive tout simplement plus à gagner, en fait. Parce que je pense qu'il, tactiquement, il est très intelligent. Il sait que quand quelque chose marche, il ne lâche pas. Et il n'a aucun passage à vide pendant ses matchs. Quoi. Il est là du premier au dernier point.
Ici encore, sur cette finale, tu voyais Dimitrov a bien commencé, ça se tient un petit peu au début, mais à un moment donné, quand il décide de lâcher un peu les gaz, c'est fini. Et Dimitrov, tu le sentais un peu acculé, tu le sentais moins bien physiquement, et il a commencé à faire la faute, provoqué par le jeu excessivement précis de Sinner.
Ouais, c'est ça. En fait, il arrive à faire la différence à un moment, et une fois qu'il fait la différence, on revient plus, en fait. Et je pense que c'est ça sa qualité, c'est qu'il a aucun passage à vide pendant les matchs, il a pas des jeux qui sont moins bons, il est là tout le temps, en fait, et contre n'importe qui, et c'est ça qui est vraiment impressionnant avec lui, c'est que physiquement il est vraiment très très bon, mentalement il gère très très bien ses émotions, il l'a encore montré après un gros titre, et puis tennistiquement il est vraiment très complet, donc quant à ces trois qualités-là, à son âge en plus, je pense qu'il va faire une carrière plus qu'incroyable.
Ouais, et tu le disais, la demi-finale contre Medvedev, c'est amusant parce que le Russe mène toujours dans leur tête-à-tête, 6 victoires à 5, mais depuis Pékin 2023, ils se sont déjà affrontés 5 fois et c'est chaque fois Sinner qui a gagné. Il a trouvé la clé et là, ce n'était pas une petite victoire. Hein, en demi, je crois qu'il lui met quoi, 1 et 2
ouais.
montre comme ça.
Ça montre ouais, qu'il est vraiment très constant en fait et que il est là à chaque tournoi parce que Medvedev, allez, c'est pas n'importe qui, le mec est dans le top 3 depuis des années. Et c'est un mec qui est toujours hyper dur à jouer parce que voilà, il a son jeu, il rate pas une balle, il est surtout de pouvoir battre 5 fois d'affilée un mec comme ça, ça montre vraiment la constance et les qualités tennistiques incroyables de Sinner.
Maintenant, ce qui va se jouer, ça va être passionnant, c'est la place de numéro 1 mondial, parce que Yannick Sinner est monté au classement, a pris la deuxième place. Maintenant, grâce à cette victoire, il n'y a plus que 1015 points qui le séparent de Djokovic, et c'est la saison sur terre qui commence, fascinant, parce qu'il y a plein de Masters 1000 qui vont s'enchaîner, mais c'est surtout, à mon avis, à Roland-Garros, avec les 2000 points qu'on peut obtenir en Grand Chelem, que ça va se jouer. Et sur terre battue, Djokovic est quand même un petit peu moins performant que sur dur.
Ouais, non, c'est sûr. Je pense qu'ils ont vraiment une chance. Je pense à Alcaraz, notamment, qui est vraiment incroyable sur terre battue.
Il est meilleur que Sinner sur terre battue, à mon avis.
Il a des qualités athlétiques encore meilleures que Sinner. Et je pense que, ouais, pour moi, il est encore. Sinner est monstrueux, je pense. Mais je le préfère encore plus sur dur, Sinner. Ça va être difficile pour Djokovic avec les deux là, qui sont là. Et surtout, ils sont très complets et ils savent jouer sur toutes les surfaces. Alcaraz, il est monstrueux sur terre battue, mais il a quand même gagné Wim un mois après.
Oui.
Sinner, il est là n'importe quelle surface, il faut compter sur lui. Et donc Djokovic, pour la première fois depuis longtemps, il va vraiment sentir les deux qui arrivent derrière et il n'a pas droit à l'erreur, entre guillemets, s'il veut garder sa place de numéro 1.
Oui.
Les deux sont jeunes en plus, donc ils vont enchaîner les tournois. Peut-être que Djokovic va faire l'impasse sur un des
Masters 1000.
Sur un des Masters 1000. Et s'il y en a un des deux qui joue bien à ce moment-là, il pourrait vite perdre sa place.
Mmh.
Et donc, il va falloir qu'il soit là, en fait. Mais il est toujours là, c'est ça le truc avec lui. C'est que quand on l'attend, il répond présent.
Ouais, mais attention que là, il a perdu au troisième tour à Indian Wells,
voilà,
étonnamment,
donc, contre Nardi.
Nardi, maintenant, donc, il a décidé de faire l'impasse à Miami. Donc il est
plus tout jeune non plus, donc je pense que... Ouais, il va falloir vraiment compter sur les deux, parce que je pense qu'ils peuvent tous les deux, ils ont les qualités et surtout ils ont la constance pour finir numéro 1 après la terre battue. Maintenant il va falloir voir comment joue Djokovic et surtout comment les deux abordent leur préparation et surtout s'ils ne se blessent pas, parce que ça peut arriver aussi. On voit Alcaraz, il s'est tordu la cheville quand même il n'y a pas si longtemps. Enfin, ce n'est pas des machines non plus, je veux dire.
Oui, c'est
à un moment, quand tu mets autant d'énergie et autant de qualité athlétique dans tous tes entraînements et dans tous tes matchs, parce qu'il n'y a pas un moment où il n'y a pas d'intensité, il va falloir aussi voir comment le corps va réagir. Mais pour le moment, ils n'ont presque pas de blessures. Donc je pense que après la saison ici, après la terre battue, on verra. Mais je suis curieux de savoir ce qui va se passer au niveau du classement dans 2 mois.
Ouais. Et dimanche, moi, je fais encore pleurer une larme de plus parce qu'il va battre il sera le plus vieux numéro 1 mondial de l'histoire, Novak Djokovic, à la place de Roger Federer.
Ouais.
Donc, il va perdre ce record-là aussi, Roger. Et il est toujours bien là, Novak Djokovic, à mon avis. Il se prépare pour la terre battue.
Ouais.
Et voilà. Mais écoute, merci beaucoup, Théo. Je n'aurai pas l'occasion de parler de tout ce dont je voulais parler, mais voilà, on s'adapte. On va te laisser aller entraîner les filles qui s'entraînent derrière nous ici au club de Hanu. Remercier le club de nous avoir accueillis dans cette belle infrastructure où s'étaient déroulés les championnats de Belgique, vétérans d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Je te remercie beaucoup et j'espère qu'on se verra durant la saison sur terre.
Oui, bien sûr, c'est toujours avec plaisir qu'on répond à tes questions.
Merci beaucoup, Théo. À très bientôt. Ciao, ciao.